11 et 12. Je suis descendu au jardin des noyers pour voir la verdure de la vallée, pour voir si la vigne pousse, si les grenadiers fleurissent. Je ne sais, mais mon désir m'a rendu semblable au char de mon noble peuple. Ces deux versets sont une parole de la Sulamite. C'est la Sulamite qui prend la parole après l'assez long discours du bien-aimé qui avait commencé au verset 4, du chapitre 6. Elle est descendue au jardin parce qu'elle a eu la révélation, verset 2 du chapitre 6, que son bien-aimé était descendu au jardin, au parterre d'aromates. Le jardin, le parterre d'aromates, c'est l'évocation du lieu de délices, précisément, du lieu, autrement dit, de rencontre, et de rencontre de Dieu et de sa créature. Adam et Ève avaient été placés au cœur d'un grand jardin, merveilleux jardin, et c'était le lieu de rencontre. À ce moment-là, il y avait un lieu de rencontre. Ce n'était pas encore le tabernacle, c'est-à-dire l'habitation commune avec Dieu, c'était un lieu de rencontre. Adam et Ève rencontraient Dieu dans le jardin. Il nous est même dit dans la Genèse que Dieu se promenait le soir dans le jardin. Eh bien, dans le Cantique des Cantiques, les images abondent. Elles sont reprises, évidemment, de bien des textes de la Bible, de l'Ancien Testament, bien sûr, de l'Ancien Testament, de beaucoup de textes de l'Ancien Testament. Et notamment, le jardin, lieu de délices, est aussi une des figures qui est empruntée ici par le Cantique. Or, là, il intervient comme lieu de rencontre. « Je suis descendu au jardin des noyers. » Elle a entendu la voix de son bien-aimé et elle est venue au lieu de rencontre pour voir la verdure de la vallée, pour voir si la vigne pousse. C'était d'ailleurs la mission que Dieu avait donnée à Adam de cultiver le jardin. Cultiver, bien entendu, pas de la manière dont aujourd'hui les hommes cultivent la terre, mais dans le verbe qui a donné cultiver, il y a aussi le radical qui est dans le mot culte. Cultiver, c'est culte. Il y avait dans ce jardin un culte. C'était un culte de l'homme et de la femme à l'égard de Dieu. Mais il est certain que c'était Dieu qui faisait tout pousser. Il n'y avait pas un travail épuisant à fournir. Alors, elle vient voir, n'est-ce pas, comment la nature, tous ces arbres excellents dont nous parle la Genèse, poussent et fleurissent. Et tout cela est une manifestation, bien sûr, de l'amour de Dieu. Je ne sais, mais mon désir m'a rendu semblable au char de mon noble peuple. Les chars du noble peuple, on peut penser peut-être à ces chars de feu, que des chars d'Israël, que Élisée a vu en portant son père, comme il l'appelle, son maître, Esaïe, char de feu, char d'Israël, cette gloire de son peuple, il y a certainement cela. Et j'en viens au chapitre 7. Je lis du verset 1er au verset 10. Reviens, reviens, Sulamite, reviens, reviens, afin que nous te regardions. Qu'avez-vous à regarder la Sulamite comme une danse de deux cœurs? Que tes pieds sont beaux dans ta chaussure, fille de prince. Les contours de ta hanche sont comme des colliers, œuvre des mains d'un artiste. Ton sein est une coupe arrondie, où le vin parfumé ne manque pas. Ton corps est un tas de froments entourés de lys. Tes deux seins sont comme deux fans, comme les jumeaux d'une gazelle. Ton cou est comme une tour d'ivoire. Tes yeux sont comme les étangs de Hesbon, près de la porte de Batrabim. ton nez est comme la tour du Liban qui regarde du côté de Damas, ta tête est élevée comme le Carmel et les cheveux de ta tête sont comme la pourpre. Un roi est enchaîné par des boucles. Que tu es belle, que tu es agréable, ô mon amour, au milieu des délices. Ta taille ressemble au palmier et tes seins à des grappes. Je me dis, je monterai sur le palmier, j'en saisirai les rameaux. Que tes seins soient comme les grappes de la vigne, le parfum de ton souffle comme celui des pommes, et ta bouche comme un vin excellent qui coule aisément pour mon bien-aimé et glisse sur les lèvres de ceux qui s'endorment. Reviens, reviens, Sulamite, reviens, reviens, afin que nous te regardions. Cette interjection, reviens, reviens, figure beaucoup de fois dans l'Écriture. Sous certaines autres formes aussi, nous la trouvons dans les prophètes, Ésaïe, Jérémie, Joël et d'autres. Nous la trouvons dans le Deutéronome. C'est véritablement quelque chose de constant. C'est toujours impressionnant quand dans les Écritures, nous avons une reprise fréquente de quelque chose. C'est à quoi donc il faut essentiellement s'attacher. Reviens, revenir à l'Éternel, le mouvement vers Dieu. Et puis, le peuple d'Israël lui-même demandait à l'Éternel de revenir. Reviens, Éternel! Il avait été, bien sûr, cause de l'éloignement de son Dieu. Mais il le rappelait. Quand il était malheureux, qu'il souffrait, il se trouvait dans la détresse, alors il rappelait son Dieu. Reviens, Éternel, reviens, reviens. Nous ne voulons plus être des méchants. Nous ne voulons plus t'offenser. Nous voulons t'obéir. Ils avaient désobéi. Ils avaient offensé. Mais il rappelait l'Éternel. Si bien que cette interjection, je vous dis, est fréquente. Ici, elle n'est pas prononcée par le bien-aimé, puis elle s'adresse à la Sulamite, n'est-ce pas ? Reviens, reviens, Sulamite. Elle n'est pas prononcée par le bien-aimé, mais ce sont les filles de Jérusalem qui le lui adressent, cet appel. Reviens, reviens, Sulamite. Ce sont les filles de Jérusalem qui ne sont pas nommées ici, mais qui accompagnent toujours ces différents chants qui composent le cantique des cantiques. Ce sont donc les filles de Jérusalem, les compagnes, nous l'avons vu, de la Sulamite, car la Sulamite est partie vers le jardin, le lieu de rendez-vous. C'est très bien pour elle. Elle est avec son bien-aimé. Mais les filles de Jérusalem, maintenant, ont appris à la connaître, à connaître par son témoignage son bien-aimé, et elles ont besoin d'elle. Elles ont besoin de son témoignage. Viens, reviens, reviens, afin que nous te regardions, que nous te voyions, que même nous te contemplions. Pourquoi veulent-elles contempler? C'est la question qui se pose. Qu'avez-vous à regarder la Sulamite comme une danse de deux cœurs? Elles ont besoin de regarder la Sulamite, et là est l'idée que le monde extérieur a besoin de voir l'Église. L'Église, nous l'avons déjà dit, est regardée par les anges du ciel, et cela, Dieu l'a voulu, il a ouvert le ciel au-dessus de l'Église, pour que les anges voient l'Église. Et le Seigneur lui-même a eu souci de cette vue qui va être portée par le monde extérieur. Dans le monde extérieur, il y a des âmes à sauver, bien sûr, et c'est là la mission de l'Église sur la terre. Et le Seigneur a dit ceci en parlant, en somme, de ses disciples, donc en parlant de l'Église. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Un. Oh, le Seigneur veut que son Église soit un, unie par le lien de l'Esprit. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse ou voit, si vous voulez, ou regarde, connaisse par un regard, que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Là, dans l'Église, le monde va voir que Dieu a aimé cette Église, aimé ces hommes, ces femmes, qu'il a transformés, dont il a fait les membres d'un corps, les membres du corps de Christ, que le monde connaisse, que le monde regarde et voit. Et le monde, en effet, a besoin de voir et lance vers l'Église, quand elle est l'Église, l'Église, bien sûr, telle qu'elle nous apparaît ici, mes amis. Retrouvons la vraie figure de l'Église par ses études et notamment ce cantique. Il nous déconcerte parce que aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons du mal à apercevoir l'Église du cantique à travers ce que, hélas, nous voyons, ce que les faits de tous les jours nous laissent apercevoir, nous laissent la figure, l'image qu'il nous laisse, et qui, hélas, n'est pas très belle. Alors nous avons, derrière cette image, beaucoup de mal à apercevoir l'Église parfaite, irrépréhensible, sans tache, l'Église revêtue de Christ, soyez revêtue de Jésus-Christ. Mais, chers amis, prenons la notion que l'Église est quelque chose de surnaturel, avec des êtres qui sont encore dans le naturel. Nous sommes dans le naturel par nos corps, par encore cette existence que nous avons sur la terre. Mais nous ne devons pas nous y tenir dans le naturel. Nous ne devons pas être de ce naturel qui est celui du monde. Nous devons être, nous, le surnaturel, dans une existence encore naturelle pour un peu de temps. Alors il faut savoir que le monde a besoin de voir la véritable Église, et que si aujourd'hui la véritable Église se montrait à ce monde, si pervers et déchu soit-il, si dégradé soit-il, si la véritable Église apparaissait à ce monde, il y aurait certainement un travail qui se ferait au milieu de ce monde. Il y aurait des cœurs qui seraient touchés, il y aurait des gens qui laisseraient tout ce que Satan, ce fardeau qu'il a mis en eux et sur eux, qui laisserait cette vie absurde. Il y a des gens jeunes, surtout, peut-être moins jeunes aussi, qui ont besoin de voir l'Église. Ah, chers amis, comme toutes ces considérations nous font vivement regretter, mais ce regret, même un pleur en nous, nous fait regretter que l'Église ne soit pas cela, ce que Dieu voit, comme Dieu la voit. Il faut absolument qu'elle soit cela. Le monde a besoin de voir l'Église, une Église unie et reflétant la gloire de son Seigneur. Et l'Église doit être recherchée. C'est dans sa vocation qu'elle soit recherchée. Nous pouvons lire par exemple dans Job 11, il ne s'agit pas là explicitement de l'Église, il s'agit d'un membre ou de membres de l'Église. Mais ce qui est dit à un membre est dit à toute l'Église. Ce qui est dit à une âme intéresse l'ensemble des âmes. Chapitre 11, verset 13. « Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu. » Étends vers lui tes mains, éloigne-toi de l'iniquité, et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente, dans ta maison, la maison où tu es. Ne laisse pas habiter l'injustice, alors tu lèveras ton front sans tache, tu seras ferme et sans crainte, tu oublieras tes souffrances, tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Tout ce qui était avant de tes souffrances et de tes péchés seront comme des eaux écoulées. Tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Au lieu de jour, il vaut mieux prendre une autre traduction. Ta vie aura plus d'éclat que le soleil à son midi. Tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Tu seras plein de confiance et ton attente ne sera plus vaine. Tu regarderas autour de toi et tu reposeras en sûreté. Tu te coucheras sans que personne te trouble. Et plusieurs, c'est beaucoup dans les Écritures, beaucoup, une foule de gens, caresseront ton visage. Vous voyez, caresseront, le mot caresse est peut-être une traduction un petit peu approximative. Disons que plusieurs contempleront ton visage. auront plaisir à regarder ton image, ta figure. C'est ça l'Église, c'est ça un membre du corps de Christ. Et nous avons aussi dans Ésaïe 62, verset 10, « Franchissez, franchissez les portes, préparez un chemin pour le peuple, frayez, frayez la route, ôtez les pierres, élevez une bannière vers les peuples. » Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur arrive, voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel, et toi, on t'appellera recherché, ville non délaissée. Sion, n'est-ce pas, est là pour concrétiser le peuple de Dieu, l'Israël de Dieu, les rachetés de l'Éternel, qui forment un peuple saint. Eh bien, c'est une ville, mettons, c'est la cité, c'est la sainte cité. On t'appellera recherchée, ville non délaissée. Et pourtant, le monde nous persécutera jusqu'à la fin, persécutera l'Église. Mais il y aura d'un côté la persécution, il y aura de l'autre côté cette recherche même anxieuse de l'Église. Et nous en avons des preuves, mes amis. Réfléchissons à ce qui se passe. Sortons un petit peu des limites de nos pauvres et misérables affaires et misérables préoccupations de nous-mêmes, chers amis, et vivons l'Église du Christ. Et nous verrons, nous nous apercevrons d'une chose, c'est que dans des pays, par exemple, comme la Russie, comme tous les pays qui sont sous le coup de la persécution et où les chrétiens connaissent d'affreuses tribulations, eh bien dans ces pays il y a persécution active, violente, terrible, harcelante. Et puis je vous dire qu'il y a peut-être un quart, sinon la moitié des Russes qui cherchent l'Église. Et qui la recherche, qui recherche les chrétiens, les véritables chrétiens, et qui s'en vont souvent dans les forêts, dans les coins écartés, pour retrouver un membre de l'Église, quelqu'un qui va parler de Christ, quelqu'un qui a vraiment le Christ dans son cœur. Elle est recherchée là où elle est le plus persécutée, l'Église de Jésus-Christ. Alors, c'est chaud. Est-ce que nous en avons la pensée, la notion, mes amis? Ben, c'est tout cela, et qu'il faut, en ce temps de la fin, remettre en sa place. Mais nous ne pouvons pas vivre indolent comme nous avons vécu, ou comme nous sommes en train de vivre maintenant. C'est pas possible. Nous ne pouvons pas vivre avec des tares, comme celles que nous voyons, hélas, venir ternir, salir, souiller abominablement l'Église. Pouvons-nous tolérer cela? Des souillures affreuses, épouvantables, des taches. Non, il faut que ce soit l'Église de Jésus-Christ, mes amis. Nous en sommes tous, pour notre part, responsables. Nous nous accommodons trop bien de notre indolence, de cette lassitude qui pèse sur l'Église aujourd'hui, de cet intellectualisme de certains qui les écarte de la véritable expérience d'une vie vécue avec le Christ. Nous avons besoin de retrouver la vérité là, dans un contact, dans une vie étroite et magnifique avec le Seigneur. L'Église doit être recherchée. Qu'avez-vous à regarder la Sulamite? Pourquoi la regardez-vous? Ça, c'est la question que pose le bien-aimé. Le bien-aimé dit aux filles de Jérusalem, mais qu'avez-vous à regarder la Sulamite comme une danse de deux cœurs? La danse de deux cœurs, notre traducteur a voulu traduire un mot hébreu qu'il aurait peut-être mieux valu laisser figurer là, quitte à mettre une note en marge, c'est Mahanaïm, Mahanaïm, qui veut dire deux camps, ou deux légions, deux cœurs, non pas deux cœurs. Parce que, n'est-ce pas, l'idée du traducteur, c'est qu'il y a des cœurs. Il ne s'agit pas de cœurs, il s'agit de camps. Il s'agit de légions. Et le mot figure dans Genèse 32. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu
Et il dit, c'est Mahanaïm. Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Alors, Mahanaïm, c'est ce qui est traduit ici, le camp. Et en réalité, c'est vu au pluriel, il aurait fallu dire les camps de Dieu. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séir, dans le territoire des Dômes. En somme, c'est là que Dieu accueille Jacob, qui revient dans le pays de Canaan, après tant d'années d'absence, et après tant de sottises commises là-bas. Il revient, et Dieu est véritablement bon, il le fait accueillir par des anges. Nous pourrions comprendre qu'il y a eu, mettons, deux légions d'anges. C'est probablement cela, deux légions d'anges, d'où Mahanaïm, les deux camps, les deux légions, n'est-ce pas? Ou alors, les deux camps du fait qu'il y aurait eu une légion d'anges et le camp. Il y aurait eu en quelque sorte deux camps, ils se seraient trouvés en face d'un camp. Mais son propre camp se serait trouvé en face du camp des anges, en quelque sorte. Mais mieux vaut comprendre, je crois, des légions d'anges. Et c'est donc avec cela que nous pouvons comprendre notre verset premier du chapitre 7. Qu'avez-vous à regarder la Sulamite comme une danse, c'est-à-dire comme une danse de légions d'anges, n'est-ce pas ? Comme si vous aviez devant vous des légions d'anges qui accompliraient, mettons, on parle du vol des anges, n'est-ce pas, des vols gracieux et qui déploieraient la grâce. Voilà l'idée, n'est-ce pas? Voyez-vous, comme si vous aviez devant vous deux légions d'anges accomplissant ces mouvements, ces allées et venues gracieuses. La danse, c'est cela, n'est-ce pas, que ici. Vous voyez l'idée, n'est-ce pas, comme il faut aller les chercher quelquefois un petit peu loin, les idées pour comprendre. Évidemment, ce n'est pas à la portée du premier lecteur, et il faut bien le reconnaître. C'est pourquoi la parole de Dieu a besoin d'être expliquée, naturellement, et d'être enseignée. C'est pour ça qu'il faut l'enseignement de la parole de Dieu dans l'Église. Tout le monde ne peut pas rechercher ces choses. Alors, pourquoi regardez-vous la Sulamite ainsi? On voit en elle la beauté et la grâce. De qui? Des anges, des habitants du ciel. La Sulamite est là, n'est-ce pas, qui figure l'Église. Elle figure la Sulamite, c'est, nous l'avons dit, la pacifiée, celle qui a été pacifiée, féminin de Salomon, et elle est là, figurant l'Église dans la beauté, par sa beauté et sa grâce. La grâce de quelqu'un qui n'est pas de cette terre, qui est comme les anges, les habitants du ciel. Au verset 2. Que tes pieds sont beaux dans ta chaussure, fille de prince, les contours de ta hanche sont comme des colliers, œuvre des mains d'un artiste. Que tes pieds sont beaux, fille de prince. Fille de prince, nous comprenons cela dans le psaume 45, la fiancée est appelée du roi, est appelée elle-même fille de roi, parce que il lui est reconnu noblesse et dignité. Et cette noblesse se lie en la stature de celle que nous avons ici, c'est-à-dire la Sulamite. L'Église elle-même devrait présenter cette noblesse de cœur, cette noblesse de sentiment, cette élévation de sentiment, et qui serait sa grâce, toute sa grâce. Vous savez que quand il est parlé de Jean-Baptiste et encore mieux du Seigneur Jésus alors qu'ils étaient enfants, eh bien il nous est dit, n'est-ce pas, qu'ils s'élevaient en stature et en grâce devant tous les hommes, en grâce. Le Seigneur Jésus qui n'était pas là pour briller par une personne physique, n'est-ce pas, puisque même Dieu a voulu qu'il n'ait rien pour attirer les regards humainement parlant, mais il était là quand il était jeune, même Jean-Baptiste, il s'élevait en stature et en grâce devant tous les hommes. Eh bien, ainsi l'Église doit-elle grandir en stature, et par stature, voyons, n'est-ce pas, même son profil, N'ayons pas peur même de voir la Sulamite comme elle est, n'est-ce pas, dans l'image, dans la parabole qu'est le Cantique des Cantiques et qui supporte l'idée de la voir comme une femme, n'est-ce pas, le corps humain a des lignes vraiment harmonieuses, magnifiques, n'est-ce pas, magnifiques, eh bien, que ces lignes ici soient soulignées, soient le support de cette stature, stature que doit prendre l'Église, spirituellement parlant, dans son œuvre, par sa parole, par la grâce qui s'échappe de toutes les personnes du corps de Christ. Mes amis, vous voyez que nous sommes loin de compte, loin de compte, loin de ce que Dieu attend de nous, chers amis. Et je voudrais que vous en fassiez la constatation. Elle nous est utile. Les contours de sa hanche, en louant la Sulamite, quant à sa stature, quant à sa ligne qui est pure, qui est belle, n'est-ce pas? Eh bien, il y a là une figure de la stature de l'Église, laquelle prend mesure et prend image sur la stature de Christ. Il est dit de l'Église qu'il faut qu'elle parvienne à la stature de Christ, n'est-ce pas? Alors, tout cela nous parle évidemment d'une image essentiellement spirituelle, mais nous en parlons avec les moyens du langage et particulièrement les moyens de comparaison, d'image. Ton sein est comme une... Ah, oui, les contours de ta hanche, ils sont l'œuvre des mains d'un artiste, bien sûr, l'artiste, n'est-ce pas ? Le créateur est un grand artiste. Croyez-vous pas que le créateur soit dans la création un grand artiste ? Quand on regarde les plus petites choses ou les plus grandes, évidemment, il y a toujours des atteintes. On regarde par exemple une belle plante, n'est-ce pas, dehors, alors on est, pour ainsi dire, un petit peu attristé qu'il y ait des feuilles flétries, qu'il y ait des piqûres d'insectes ou autre chose. Ben oui, mais nous sommes sur la terre du péché. Dans la terre du millénium, cela ne sera plus, et les végétaux auront eux-mêmes leur splendeur. Et il faut bien dire que c'est magnifique. C'est magnifique. Quand on va aujourd'hui, par exemple, chez un horticulteur de talent, qui a su faire revivre un peu les splendeurs que les végétaux ont eu et retrouveront dans le millénium, ont eu avant la chute et retrouveront ensuite, eh bien, vraiment, on est émerveillé. On est émerveillé. Il y a dans les serres des horticulteurs des choses absolument admirables. Moi, je me rappelle, dans certaines serres de certaines villes, je me rappelle à Rouen, par exemple, eh bien, je suis allé souvent visiter les grandes serres du Jardin des Plantes, parce que c'est pas encore travaillé d'une façon parfaite, mais malgré tout, c'est excellent, n'est-ce pas? Alors on y crée un climat, l'humidité qui convient, la chaleur qui convient, la lumière, etc. Et on arrive à voir des splendeurs. Moi, je suis resté en admiration certaines plantes, certains végétaux. Alors là, on voit l'artiste, n'est-ce pas? Véritablement, l'artiste. Ton sein est une coupe arrondie où le vin parfumé ne manque pas, ton corps est un tas de froment entouré de lys. Nous allons entrer là dans une série de comparaisons, le mot sein reviendra d'ailleurs plusieurs fois, une série de comparaisons qui n'aurait aucun sens, cela je l'ai déjà signalé, s'il s'agissait d'un poème d'amour fait par quelque... jeune homme enflammé pour sa bien-aimée, n'est-ce pas, et qui aurait peut-être, une muse vraiment diligente, mais jamais, n'est-ce pas, il ne prendrait des comparaisons comme celle-là. Je veux vous montrer par là que ces comparaisons, n'est-ce pas, ne peuvent pas rester du domaine de la terre. Par exemple, n'est-ce pas, lorsqu'il sera dit que son nez est comme la tour du Liban, eh bien, écoutez, je ne sais pas si quelqu'un avait un nez comme la tour du Liban, n'est-ce pas, ou si un poète pouvait prendre une telle comparaison, eh bien, vraiment, il aurait manqué à, précisément, l'inspiration de sa muse, n'est-ce pas. Alors, vous voyez, je vous dis tout cela pour vous montrer que, dans ces figures-là, il y a tout autre chose que la recherche d'une description purement physique. Si c'était une description physique, n'est-ce pas, ce serait ridicule. Ce serait ridicule, avouons-le. Ridicule, n'est-ce pas? Je ne souhaiterais pas du tout avoir un nez comme la tour du Liban, n'est-ce pas? Eh bien, là, n'est-ce pas, nous voyons dans le verset 3, commençons la série de quelques images, dans le verset 3, « Son sein est une coupe arrondie où le vin parfumé ne manque pas, son corps est un tas de froment entouré de lys. » Il est évident que le sein, n'est-ce pas, peut donner du lait, mais pas du vin, n'est-ce pas? Pas du vin, ni du vin parfumé. Alors, vous voyez là, il y a donc à saisir une idée spirituelle, avec la hardiesse qui est dans l'image, et toutes les paraboles du Seigneur sont des similitudes, des figures hardies, excessivement hardies. On en fait ce qu'on veut pour supporter une idée spirituelle. Faut que vous compreniez bien cela, n'est-ce pas? Alors, lire littéralement seulement, ça n'a pas de sens. Ton sein, eh bien, la beauté de la ligne qui vient de précédemment d'être évoquée par la hanche, va au sein et voit, mettons, le profil, n'est-ce pas? Le sein est comme une coupe arrondie. Nous sommes toujours à la beauté de la ligne, mais la beauté de la ligne et du profil vient ici, débouche ici subitement sur l'idée du sein nourricier, autrement dit sur l'idée de la fécondité. Quand nous sommes à l'idée de sein, n'est-ce pas, il y a proche l'idée de sein nourricier et de fécondité, n'est-ce pas, de fécondité. Alors, l'idée est tellement celle-là que nous voici avec quoi, tout de suite dans le même verset, le vin parfumé et le froment. Le vin et le froment. Nous connaissons ces deux choses, ce sont les signes de la nourriture céleste. Nous avons vu qu'Abraham et Melchisédek ont pris ensemble le pain et le vin, ils ont fait ensemble la première sainte cène, la cène a repris ces deux éléments, pain et vin, n'est-ce pas, pour signifier quoi donc? Le don du Seigneur qui se donne comme une nourriture, qui est le pain de la vie. Le pain de la vie, ah, le pain de la vie, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle. Alors, c'est vous voyez bien ici l'idée, n'est-ce pas, du sein nourricier. On ne s'occupe pas de savoir si le sein donne du lait généralement, n'est-ce pas. Là, ici, c'est le vin et le froment qui sont les signes de la nourriture céleste. Ni le vin, ni le froment ne manquent en l'Église. Marquez bien ceci, le vin parfumé ne manque pas. Et ton corps est un tas de froment, comme une réserve immense de froment. L'Église est comme une réserve de froment. Il y a dans l'Église le pain et le vin, c'est-à-dire il y a la nourriture céleste. C'est l'Église qui apporte le Christ en nourriture aux autres âmes. C'est elle qui va apporter, par conséquent, ne voyons pas seulement ce qu'elle fait dans ses réunions de culte, la Sainte Cène avec le pain et le vin, mais disons que ces signes qu'elle a, qu'elle détient, montrent qu'elle est nourricière. Elle est la nourricière, et quelle nourriture apporte-t-elle aux autres? Le pain de vie. Et le pain de vie, qui est-ce? C'est Christ lui-même. Je suis le pain de vie. Et c'est l'Église qui apporte Christ comme nourriture aux autres. Les amis, quand on voit, comme on a eu le bonheur de voir quelquefois, une âme se convertir là, comme foudroyée par l'esprit, un esprit de repentance. Une âme, j'ai vu cela, une âme s'effondre dans sa terre, suis un misérable, et pleurant, saisie comme foudroyée, je vous dis. Et puis se relevant, alors que ceux qui étaient auprès de cette âme, alors lui disaient, oui, mais Christ est mort sur la croix pour que tu vives, ami, pour que tu retrouves vie. C'est vrai que ton péché te fait mourir, c'est vrai qu'il t'accable, c'est vrai que tu es mort, et c'est vrai que tu es destiné à la perdition, mais mange ce pain, bois à la coupe de bénédiction, viens frère, nous te confions à ça. Et l'âme qui regarde d'un regard tout neuf vers ce qu'on lui dit, le ciel, qui boit ses paroles et buvant ses paroles, veut se convertir à Jésus-Christ. Elle se convertit et dans les temps qui suivent, participe au pain et au vin. L'Église a donné abondamment ce qu'elle a, le froment et le vin. Voyez, le vin parfumé ne manque pas. Ton corps à toi, Église, est comme un tas de froment entouré de lys. Les lys de la vallée, les lys des vallées, c'est entouré de la grâce de ton Seigneur. Ton Seigneur est en tout cela. C'est merveilleux, mes amis, c'est merveilleux. Il faut restituer à ces textes toute la chaleur et toute la vérité qu'ils contiennent. Nous arrivons maintenant au verset 4. Tes deux seins sont comme deux fans, comme les jumeaux d'une gazelle. Cela, nous l'avons déjà vu au chapitre 4 et au verset 5. Chapitre 4 et verset 5. Tes deux seins sont comme deux fans, comme les jumeaux d'une gazelle, qui paissent au milieu des lys. Ce n'est pas répété cela, qui paissent au milieu des lys, mais, n'est-ce pas, nous pouvons très bien le réintroduire ici. Comme les jumeaux d'une gazelle qui paissent au milieu des lys. C'est l'idée toujours d'engendrement qui se poursuit ici. L'Église est cette mère, disons, ce n'est pas parce que le catholicisme a employé faussement et ridiculement cette idée de mère en l'appliquant à l'Église que nous ne pouvons pas le dire, n'est-ce pas? Mais elle est comme cette femme, si vous voulez, enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur la tête. Eh bien, elle engendre, elle enfante des enfants mâles. Elle enfante et elle les nourrit. Elle les nourrit comme une épouse, n'est-elle pas l'épouse? Elle est vue comme la fiancée, mais n'est-elle pas aussi déjà vue comme l'épouse? L'épouse qui enfante et qui nourrit. Voyez, rappelons-nous le chapitre 5 des Éphésiens. Marie, aimez vos femmes. Marie, nourrissez vos femmes, votre femme, vos femmes, comme Christ nourrit l'Église. Alors, si Christ nourrit l'Église, il est évident que l'Église nourrit les jeunes âmes qui sont venues à elle, qui sont dans son sein. Et alors, tes deux seins sont comme des fans, comme les jumeaux d'une gazelle qui paissent au milieu des lys. Ils vont paître l'herbe tendre dans cette vallée verdoyante où il y a les lys, les fleurs, les coquelicots, les lys des champs et surtout des coquelicots, où il y a, n'est-ce pas, ces fleurs qui égaient, n'est-ce pas? Alors là, il y a de beaux pâturages. De magnifiques pâturages, et l'Église amène les âmes à ces pâturages. Mes amis, chaque fois que j'étudie, que je prépare ces études, je me lamente. Je ne peux pas manquer de vous en faire part. Je me lamente parce que je me dis, l'Église est-elle cela aujourd'hui? L'Église est-elle vraiment cela? Oh, chers amis, comme il faut absolument. Le Seigneur peut nous prendre. Quelques-uns d'ici plus vite que d'autres, c'est possible, peu importe cela. Mais le Seigneur peut nous prendre d'un moment à l'autre. Chers amis, nous allons répondre devant lui. Il va nous dire, mais je t'ai montré ce qu'était l'Église, comment je la voyais, ce que je voulais qu'elle soit l'Église. Et toi, tu as travaillé avec ceux qui battaient les autres serviteurs, avec ceux qui, parce que je tardais à venir... Alors, tu t'es amusé avec eux, tu es entré même dans une sorte de licence, presque de débauche, c'est la figure tout au moins que Luc emploie, tu es entré dans une débauche au lieu de veiller et de prier, au lieu d'accomplir ce que je t'avais demandé. Le Seigneur va nous demander compte de tout cela. Il va nous demander compte, chacun rendra compte pour lui-même, et l'Église dans son entier rend compte. Il faut, vous le savez, que le jugement commence par la maison de Dieu. Le jugement va commencer par la maison de Dieu. Je vous l'ai dit précédemment, il faut aujourd'hui, en ce temps, alors que nous voyons tous les signes autour de nous se précipiter, il faut absolument que la parole dans l'Église soit une parole prophétique et ne ménage rien de ce qui est le péché, de ce qui est l'offense à Dieu de ce qui est l'iniquité, de ce qui est l'indolence, qu'on se dirait que l'indolence, l'indifférence. Il faut absolument que la parole aujourd'hui annoncée dans l'Église soit celle-là. Ou alors, mieux vaut peut-être s'arrêter de prêcher, si l'on ne prêche pas de cette manière-là. Et nous arrivons au verset 5. « Ton cou est comme une tour d'ivoire, tes yeux sont comme les étangs d'Hésbon. » Voyons d'abord la tour d'ivoire. Nous avons dans Ésaïe 48 et au verset 4 ceci, Ésaïe 48, verset 4. Sachant que tu es endurci, que ton cou est une barre de fer, et que tu as un front d'airain, je t'ai annoncé dès longtemps ces choses, et je les ai déclarées avant qu'elles arrivassent, afin que tu ne dises pas, c'est mon idole qui les a faites. C'est mon image taillée, ou mon image en fonte qui les a ordonnées. Voyez, n'est-ce pas, le peuple qui est dans l'endurcissement, est un peuple que Dieu qualifie de peuple au cou qui ressemble à une barre de fer. Souvent, nous avons aussi dans l'Ancien Testament l'expression « le cou roide ». Le cou roide. Cou roide. Ainsi, le cou est donc quelque chose dans le langage de l'Ancien Testament qui est pris pour montrer quelle est l'attitude générale de la personne ou l'attitude générale du peuple. Eh bien, là, n'est-ce pas, le cou de la Sulamite est comme une tour d'ivoire, ce qui veut dire qu'elle n'est pas la barre de fer, ce n'est pas non plus un cou roide, mais c'est un cou de blancheur, tout de blancheur, de droiture, inflexible, certes, de persévérance dans l'obéissance. Il est en somme le cou de la Sulamite et comme la tour d'ivoire, ce qui veut dire que la Sulamite est dans la volonté ferme d'obéissance sans déviation. La tour, pourquoi employer le terme tour? Eh bien, nous pouvons le justifier avec Jérémie 6, 26. Jérémie 6, 26. Fille de mon peuple, couvre-toi d'un sac et roule-toi dans la cendre. Prends le deuil comme pour un fils unique, verse des larmes. Mais je crois que j'ai peut-être, je ne sais pas si, enfin, verse des larmes et des larmes amères car le dévastateur vient sur nous à l'improviste. J'ai noté cela. Je ne sais pas si c'est tout à fait approprié à ce que je dis là, mais enfin, ça ne fait rien. J'avais noté cela. Couvre-toi d'un sac, prends le deuil, comme verse des larmes amères, comme car le dévastateur vient sur nous à l'improviste. Oui, j'ai marqué ça parce que j'ai pensé, il y avait peut-être un autre passage aussi que j'ai oublié de marquer, et j'ai pensé ceci, c'est que contre l'ennemi dévastateur, il faut absolument opposer quoi? Une vigilance, et la vigilance est souvent représentée par la tour. La tour, comme la tour forte, qui s'appelait la tour de David, et qui défiait tous les ennemis d'alentour. Ensuite, nous avons, tes yeux sont comme les étangs d'Hésbon, près de la porte de Bat-Rabim. Voyons alors les yeux. Les yeux, comme les étangs d'Hésbon, sont comparés, en somme, à ces étangs, parce que dans ces yeux, on lit la profondeur. Ce sont des yeux calmes, comme des eaux transparentes. Et puis, remarquez ceci, c'est que les eaux des étangs, évidemment, la comparaison est toujours prise dans la terre promise, dans la terre de la promesse, n'est-ce pas? C'est pour ça que c'est à Hésbon. Mais les étangs sont des eaux calmes, des eaux qui se décantent, des eaux transparentes, et qui, avec leur fond, reflètent magnifiquement le ciel. Ce sont des eaux qui reflètent le ciel. L'Église a donc appris à demeurer calme et à connaître Dieu étant le reflet d'en haut, le reflet de la gloire de Dieu. Les eaux de l'étang ne reflètent pas ce qu'il y a par terre, ils reflètent le ciel. De même, l'Église est le reflet de sa gloire. Elle ne regarde plus la terre, mais le ciel. Elle ne s'affectionne plus aux choses de la terre, mais aux choses d'en haut, car ses yeux doivent être remplis et éclairés de toute la lumière de Dieu. Ton nez est comme la tour du Liban qui regarde du côté de Damas, textuellement, qui surveille la plaine de Damas. Vous voyez, quelquefois, notre traducteur nous met en difficulté d'interpréter, de comprendre, parce que il ne nous livre pas tout ce qui est dans le texte. Vous savez, la version seconde est relativement bonne dans le Nouveau Testament, mais pas extraordinaire, pas très bonne dans l'Ancien Testament. Enfin, nous l'avons, nous nous en servons, mais il faut apporter des correctifs, c'est indispensable, ou des compléments, parce que sans ça, on ne peut pas comprendre. Hein. Le nez est comme la tour du Liban qui surveille la plaine qui va du côté de Damas. Eh bien, je crois que les événements actuels nous ont suffisamment parlé, n'est-ce pas, du Golan et de cette route vers Damas. C'est un plateau, plus exactement qu'une plaine, n'est-ce pas, vers Damas, et vous savez que l'ennemi vient par là. Et l'ennemi est redoutable par là. Alors, que pouvons-nous comprendre de cela? Eh bien, lisons Ésaïe 11:3. Ésaïe 11:3. 11, verset 3. Il est question ici, prophétiquement, du rameau qui sortira du tronc d'Isaïe, c'est-à-dire du Seigneur. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point un oui-dire. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il humera la crainte. Et l'on peut humer, n'est-ce pas, la crainte de l'Éternel et humer, comme David savait si bien le faire, les volontés de l'Éternel, les desseins de l'Éternel, on connaît le dessein général, mais les intentions de l'Éternel, les directions de l'Éternel, on les sent, on les hume, il y a une espèce de flair, des flairs, n'est-ce pas? Et ce flair est rapporté en somme à l'odorat, qui est le sens de cet organe que nous avons sur la figure et qui est le nez, n'est-ce pas? Alors, en somme, le sens physique de l'odorat, ici, en figure un autre, qui appartient, lui, à la nouvelle création. C'est le sens délicat, la connaissance, à tout moment, en toutes circonstances, de la volonté de l'Éternel, pour laquelle Paul priait pour les églises afin qu'ils soient enrichis vraiment de la connaissance de la volonté de l'Éternel, par l'Esprit de Dieu, et qu'il, en somme, soit informé à tout moment de la pensée de Christ, qui, en somme, est, si vous voulez, aussi dans la bonne odeur de Christ, la pensée de Christ, les directions de Christ sont la bonne odeur de Christ qui est respirée. Alors, cette connaissance de la volonté de Dieu par donc une sorte de flair, n'est-ce pas, de flair dont il est parlé ici par le nez qui exerce lui l'odorat, eh bien là c'est un flair spirituel, une respiration spirituelle qui permet de humer la volonté de Dieu. En sorte, le mot n'est pas juste, mais ce serait une sorte d'intuition à tout moment de la volonté de Dieu. Le mot intuition n'est pas juste, je le dis, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi j'emploie plutôt le mot flair. Il n'est pas très beau lui-même, mais enfin, on s'exprime comme on peut. Alors, humer, n'est-ce pas, la pensée, la connaissance de la volonté de Dieu. En somme, avoir ce discernement de ce qui est saint, de ce qui est profane, de ce qui est le bien ou de ce qui est le mal. À certains moments, il faut tourner à droite, parce que la gauche n'est pas bonne. À certains autres moments, il faudra peut-être tourner à gauche, parce qu'à droite, ce n'est pas bon, n'est-ce pas? Il faudra savoir se diriger ainsi par un flair. Et alors, cette connaissance de l'Éternel sera une force qui permettra de tout surveiller, de surveiller l'ennemi du Golan. L'ennemi, n'est-ce pas, qui vient du côté de Damas, là-bas. Méfions-nous de cet ennemi-là, n'est-ce pas? Et si nous voyons notre ennemi approcher, nous, sur notre Golan à nous, sur le Golan de l'Église, n'est-ce pas? Si nous le voyons venir là dans l'ombre, parce qu'il aime beaucoup cheminer dans l'ombre, et puis il est un serpent, il passe un peu dans tous les trous, n'est-ce pas? Alors il passe partout, et puis il a... Mais on n'a pas besoin de le voir, on le sent. Attention, là-bas, du côté de Damas, l'ennemi s'approche. Il faut faire quelque chose. Il faut intervenir. Alors, c'est la surveillance, n'est-ce pas? Voilà. Ce que veut dire, vous voyez, ton nez est comme la tour du Liban qui regarde du côté de Damas, autrement dit, qui surveille du côté de Damas. Ensuite, ta tête est élevée comme le Carmel et tes cheveux, les cheveux de ta tête sont comme la pourpre. Un roi est enchaîné par des boucles ou tes boucles, par des boucles, les boucles de ta tête, autrement dit, n'est-ce pas? Ah, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, c'est sur le mont Carmel, vous le savez, qu'Élie remporta la victoire sur l'idolâtrie des Baals et des Astartés, et toute l'idolâtrie du royaume d'Akab, et que l'Éternel fut glorifié par ce feu qui descendit du ciel sur le Carmel. Alors, le mont Carmel... qui est élevé à proximité de la mer, le serviteur d'Élie put aller s'avancer un petit peu, puis il aperçoit au-dessus de l'horizon de la mer, il aperçoit l'horizon de la mer, c'est là qu'il verra un petit nuage monter. Eh bien, le mont Carmel s'est donc resté dans l'esprit du peuple d'Israël comme étant le mont du sacerdoce. Le mont du sacerdoce, non pas celui du sacrifice donné, mais le mont du sacerdoce exercé, du vrai sacerdoce exercé par l'Église. Les cheveux eux-mêmes sont un symbole de force et d'appartenance à Dieu. Rappelons-nous la chevelure de Samson, et avec les reflets de la pourpre royale, ces cheveux qui forment des boucles enchaînent le roi. Les cheveux de la Sulamite enchaînent le roi par leur coupe. Comment cela? Eh bien, d'abord, disons ceci, c'est que les cheveux qui sont une force sont aussi une faiblesse dans un combat. Dans un combat, les cheveux sont une faiblesse, n'est-ce pas? On peut vous prendre par les cheveux et cela est infiniment douloureux, cela peut vous amener à abandonner la lutte, n'est-ce pas? C'est une faiblesse. Eh bien, la force de l'Église... est dans sa faiblesse, si les cheveux sont sa force, comme ils étaient la force de Samson, eh bien, c'est parce qu'ils sont aussi une faiblesse, une parure, mais une faiblesse. La force de l'Église est donc dans sa faiblesse et dans son appartenance au roi. C'est elle qui appartient au roi. Alors, comment peut-elle enchaîner le roi? Eh bien, voici. Vous vous souvenez du récit de la Genèse au chapitre 32, ce récit d'un certain mystérieux combat de Jacob qui s'attacha à Dieu, s'agrippa même à l'ange de l'Éternel, Dieu qui était là et qui combattait avec lui. Il s'attache à lui et je ne te quitterai pas que tu ne m'aies béni. Et jusqu'à l'aurore, il va s'attacher à Dieu, il va s'agripper. Et tellement bien que l'ange de l'Éternel qui veut partir, c'est l'aurore, la nuit est terminée, il y a des choses dans la Bible qui se passent la nuit comme ça. Eh bien, l'aurore venant, l'ange de l'Éternel, bon, je ne sais pas s'il l'a fait avec la main, n'est-ce pas, mais il lui donne un coup sur la hanche qui se déboîte. L'emboîture de la hanche, n'est-ce pas, elle se déboîte et notre Jacob s'en va, n'est-ce pas, avec en boitant. Alors, à ce moment-là, l'ange de l'Éternel lui dit, tu as lutté avec des hommes et avec Dieu. Ah, ça, des hommes, il avait eu son compte pour lutter, n'est-ce pas, ça, il s'y entendait bien. Tu as lutté avec des hommes auxquels tu aurais dû présenter un autre Jacob que celui-là. Et tu as lutté avec Dieu aussi. Et puis, dans tout ça, tu as été vainqueur. Vainqueur. Comment, mais il est hors de combat, il a été presque, il a été humilié par Laban, Laban, il a été humilié. Il est humilié encore par Ésaü, parce qu'il tremble comme une feuille. Il tremble comme une feuille en apprenant que son frère Ésaü vient avec presque une armée, 400 hommes, devant lui. Le pauvre Jacob, il est là, tremblant, il a peur, il est blême. Et puis alors il fait ce combat, et puis quoi? Il a un coup à la hanche, il ne peut plus marcher droit, il boite, et Dieu lui dit qu'il est vainqueur. Il est vainqueur parce qu'il a capitulé, parce que sa force propre a capitulé. Le prophète Daniel nous le dit bien, quand la force du peuple aura cessé, alors là, n'est-ce pas, tout sera gagné. Tout est gagné quand la force propre du peuple a cessé. Alors il fut déclaré vainqueur. Il en est ainsi de l'Église. Ce combat, mes amis, c'est le combat de chacun de nous, et c'est le combat de l'Église aussi. Il en est ainsi de l'Église. Alors l'Église est vainqueur de Dieu. Israël, ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël. Et Israël veut dire qui a lutté contre Dieu et qui a été vainqueur. Israël a lutté contre Dieu, et Israël continue à être celui qui lutte contre Dieu pour être vainqueur. Je l'ai déjà expliqué l'autre jour, cela, je n'ai pas m'y attarder maintenant, n'est-ce pas? Il a été déclaré vainqueur, et l'Église est comme Jacob, est un Jacob déclaré victorieux. Son roi lui est attaché, Christ lui est attaché, au point que maintenant l'Église s'appelle Christ. La tête et le corps ne forment qu'un, et nous l'avons vu, 1 Corinthiens 12:12, Christ, c'est l'Église et le roi. Christ est attaché à l'Église, il est attaché maintenant, il est à elle, Christ est à vous, sa victoire lui appartient. Et la victoire, eh bien, l'Église l'a fait sienne, le Seigneur, l'Église le fait sien, n'est-ce pas? Et c'est ce que nous dit ici, un roi est enchaîné par tes bouts. C'est vrai que le Christ est enchaîné à son Église maintenant, il est enchaîné. Voyez-vous comme c'est magnifique toutes ces choses, comme elles sont prophétiques, et comme il y a du fond dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et il faut aller chercher ce fond. Ensuite, nous avons versets 7 et 8 ceci. Que tu es belle, que tu es agréable, ô mon amour, au milieu des délices. Ta taille ressemble aux palmiers et tes seins à des grappes. Bon, lisons d'abord ces deux versets. Au milieu des délices de ce jardin d'Éden où elle se tient, l'Église est quoi? Mais voyons ce que nous avons dit jusqu'ici. L'Église est l'Ève. Ève, qui veut dire mère des vivants. Elle est la mère des vivants, c'est elle qui est chargée d'enfanter, mes amis, d'enfanter, d'engendrer des âmes à la vie. Elle est mère, c'est pour ça que tout à l'heure, j'avais pas peur de dire mère. Nous pouvons la comparer à l'Ève, l'Ève du nouvel Adam, du dernier Adam. Christ est vu comme le dernier Adam, le nouvel Adam, le second Adam. Alors, le nouvel Adam, elle est l'Ève, l'Ève, et elle se trouve dans ce jardin d'Éden où elle se tient. Sa taille, alors, est élevée, autre comparaison, comme le palmier, et qui porte les grappes de ses fruits. Alors là, nous avons encore, ta taille ressemble au palmier, tes seins à des grappes. Elle porte, le palmier porte de longues grappes de fruits. Ce sont généralement des dattes, n'est-ce pas? Des dattes. Je dis généralement, il y en a d'autres. Mais enfin, prenons des dattes, si vous voulez, qui sont d'excellents fruits, des fruits sucrés, et qui sont par une espèce de régime, n'est-ce pas? Des espèces de grandes grappes. Le mot grappe ici, un sens très large. On pourrait l'appliquer à des grappes de raisin, mais le raisin vient après, il n'est pas là. Alors laissons la comparaison aux grappes que porte le palmier. Quel développement l'Église n'a-t-elle pas atteint? Le palmier est droit, il n'est pas écrasé, il n'est pas courbé, il fleurit dans la hauteur, il fleurit haut, dans la lumière du soleil, il se développe en montant toujours. Les branches, notez que les branches basses tombent. L'Église est en progrès, en croissance. Ce qu'elle était à un certain moment, les fruits qu'elle a portés à un certain moment étaient trop bas. Il faut qu'elle porte des fruits toujours plus hauts. Elle monte toujours. comme le palmier qui va en hauteur. Les branches basses ne sont plus utiles et elles tombent. Nous avons, cela on l'a déjà lu, mais une fois de plus, ce n'est pas mauvais, dans le psaume 92 et le verset 13, « Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu, ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants, ce que j'évoquais ce matin, pour faire connaître que l'Éternel est juste. » Attention, pas pour aller s'amuser ou se distraire, hein? Pas pour aller s'abandonner à une bonne et petite doucette vie de conception terrestre. Pas pour ça, non. Pour faire connaître que l'Éternel est juste. Hein. Il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Alors, ce palmier, donc, c'est à quoi la Sulamite est comparée ici. Le palmier qui monte et qui porte du fruit dans la lumière. La croissance du palmier est rapide et franche dans la lumière de Dieu lorsqu'au pied, l'eau de la source vient apporter au palmier son breuvage. Le palmier pousse dans les oasis où il y a toujours des sources d'eau, n'est-ce pas? Et l'eau vient abreuver le pied, rappelons-nous le psaume 1, n'est-ce pas? Heureux l'homme qui est comme un arbre arrosé, bien arrosé par le courant d'eau. La vie de l'Église est la vie de Christ. Elle ne peut être détournée dans des voies tortueuses. Le palmier, il est droit. Si le palmier s'avisait d'aller sur le côté, eh bien, la vie le quitterait. Elle ne peut se tenir dans l'obscurité, elle gagne une région qui s'étend au-dessus des choses de la terre et porte du fruit pour Dieu. Et puis alors, nous avons ici, là, au verset 9 déjà, oui, verset 9. « Je me dis, je monterai sur le palmier, j'en saisirai les rameaux, que tes seins soient comme les grappes de la vigne, cette fois-ci, le parfum de ton souffle comme celui des hommes, des pommes, pardon, et ta bouche comme un vin excellent qui coule aisément pour mon bien-aimé, qui glisse sur les lèvres de ceux qui s'endorment. » Qui c'est qui parle là? Je me dis, je monterai sur le palmier, j'en saisirai les rameaux. Eh bien, c'est quelqu'un. Quelqu'un qui parle. Quelqu'un qui parle ici, parce que il a suivi tout cela. Il a contemplé, il a regardé la Sulamite, il a regardé l'Église, et il prend la parole, quelqu'un de l'entourage, peu importe qui est ce quelqu'un qui a une aspiration et qui vient de ressentir en lui une grande aspiration à regarder la Sulamite, comme doit ressentir une aspiration celui qui regarde l'Église, la véritable Église, vivre dans la lumière de son maître. Alors il veut vivre comme elle, il veut suivre le même chemin. Il veut suivre le même chemin. Alors il va saisir les rameaux, il va saisir les branches pour s'aider. Et voilà ce qu'il envisage. Mais s'il suit cette aspiration, il n'aura pas besoin de saisir les branches. Elles sont d'ailleurs bien hautes pour être saisies. Elles ne sont pas faites pour ça. Alors, qu'est-ce qu'il aura? Mais il aura lui-même la sève du palmier. Il aura la sève du palmier. Et il trouvera lui aussi le moyen d'être élevé comme l'est ce palmier. Dans l'Église, lui aussi sera élevé vers son maître, son sauveur. Heureux ceux qui, en somme, aspirent à saisir les palmiers de Dieu et à s'y attacher, parce que eux aussi vont s'élever comme le palmier. Que tes seins soient comme les grappes, soient comme les grappes. En somme, celui qui veut saisir il se propose de saisir les rameaux, ben, le voici qui se met à prier, à faire un vœu. Ah, que tes seins soient comme les grappes de la vigne. Mais elles le sont déjà. Le parfum de ton souffle comme celui des pommes, mais il l'est déjà, et ta bouche comme un vin excellent, mais il l'est, on l'a déjà dit, qui coule aisément pour mon bien-aimé. Mais Il arrive souvent dans l'église, et vous-même, ça vous arrive. Quand vous entendez la parole de Dieu, « Ah, Seigneur, Seigneur, donne-nous toujours cette parole, Seigneur, le Seigneur renouvelle notre frère pour qu'il nous apporte la parole, Seigneur !» Vous faites des vœux dans ce... Eh bien, c'est la même chose. C'est exactement la même chose, n'est-ce pas? Celui qui a cette aspiration, « Ah, il dit, c'est excellent tout ça, tout ce que l'église m'apporte, c'est très bon. Alors, Seigneur, 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 que tout cela soit abondant, que je puisse m'en réjouir, que je puisse m'en rassasier, Seigneur !» Voilà sa prière, tout simplement, n'est-ce pas? De ce quelqu'un-là qui a vu la Sulamite, que tes seins soient comme les grappes de la vigne, n'est-ce pas, ces grappes excellentes dont on peut manger le parfum de ton souffle, comme le parfum des pommes, le parfum de ton souffle, c'est l'odeur de ton esprit, l'odeur de ton esprit, de l'esprit de l'Église, qu'il soit comme celui des pommes. Vous savez qu'aujourd'hui... Les pommes, elles ne sentent plus rien, ou presque rien. Elles n'ont pour ainsi dire plus de saveur, parce que l'homme y a mis, hélas, sa triste compétition, n'est-ce pas? Il a voulu, lui, se mêler de l'affaire de ce qui intéresse le Créateur seulement. C'est Dieu qui fait pousser, il a voulu faire pousser aussi, lui. Alors, par des moyens chimiques et toutes sortes de choses, et alors les pommes sont zéro. Mais quand j'étais jeune encore, il n'y a pas que moi qui pourrais le dire ici, n'est-ce pas? Eh bien, quand j'étais jeune, et je vous ai dit que j'étais en Normandie, eh bien, je me rappelle ces herbages où il y avait de ces pommiers magnifiques, et quand on arrivait là-dedans, eh bien, on était comme celui-là, n'est-ce pas? On sentait le parfum des pommes, et savez-vous ce que ça nous faisait? Eh bien, on laissait nos petites bricoles avec lesquelles on jouait, quand on était gosse, et puis on faisait la courte échelle, et on allait chercher des pommes, et puis on en mangeait jusqu'à... Oui, jusqu'à se faire mal, presque, n'est-ce pas? Parce que, vraiment, le parfum des pommes nous attirait vraiment, et nous avions envie de manger ces pommes juteuses, excellentes, parfumées, qu'on ne trouve plus maintenant. N'est-ce pas? Eh bien, c'est cela, voyez-vous, que l'odeur de ton esprit soit comme le parfum des pommes qui donne envie d'en manger. Alors moi aussi, je veux manger de cet esprit-là. Moi aussi, j'en veux de cet esprit-là. J'en veux avec abondance. Et que ta bouche soit comme un vin excellent, autrement dit, que ta bouche laisse aller le vin excellent du royaume de Dieu, le vin des noces de Cana, le vin de la coupe des bénédictions, il découle de ta bouche, c'est ta parole qui est ce vin. Ta parole, la parole de l'Église est ce vin généreux, c'est le vin de Canaan. Oui, c'est le vin du royaume de Dieu, le vin de Cana, le vin, c'est la promesse du vin que nous boirons dans le royaume de Dieu. Et ce vin qui coule aisément pour le bien-aimé et qui glisse sur les lèvres de ceux qui s'endorment, ceux qui quittent cette terre en s'endormant, ils ont ce vin du royaume de Dieu. Ils s'endorment avec la grâce et la grâce les conduira au festin où ils boiront le vin nouveau avec le roi. Amen.